Bonjour Pierre-Louis Hans.
Bonjour.
Anselme, vous êtes journaliste pour la radio Europe 1, auteur de l'émission Au cours de l'histoire. Vous venez de publier votre livre avec Franck Ferrand, 3 minutes pour comprendre 50 dates clés de l'histoire de France. Nous sommes tous réunis aujourd'hui à Aston, Manuela, Betty, Rika, Surtrine, Alexis, Anne, Mélissa et moi-même Leïla, pour vous poser quelques questions sur votre livre et sur vos mails.
Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Alors, j'ai écrit ce livre parce que donc Franck Ferrand, qui est la personne avec qui je travaille, me l'a proposé. Et on a trouvé le concept intéressant parce que l'idée, c'est qu'on explique 50 dates importantes de l'histoire de France en essayant de faire en sorte qu'en lisant en 3 minutes, on puisse comprendre la date, ce qui se passe, pourquoi ça se passe et qu'est-ce que ça veut dire dans l'histoire de France, pourquoi c'est important.
Comment trouvez-vous vos informations ?
Alors, pour écrire un livre comme celui-là, il faut tout simplement aller à la bibliothèque, trouver des livres, ce qu'on appelle les usuels, c'est-à-dire des livres qui, dans lesquels il y a un peu tout, etc. On lit, on potasse, on réfléchit, et après, on écrit le texte.
Quels sont les événements que vous avez aimé raconter ?
Oh ben tous, parce que dans les 50 événements, il y en a que je connaissais très bien, il y en a que je connaissais un petit peu moins bien. Et du coup, ce qui m'a intéressé quand je les connaissais bien, c'était d'essayer de les rendre le plus clair possible pour que quelqu'un qui ne connaisse pas du tout comprenne. Et quand je ne les connaissais pas très bien, ce qui m'a intéressé, c'est de moi-même essayer de les comprendre.
D'accord. Pourquoi aimez-vous l'histoire ?
Alors, j'aime beaucoup l'histoire parce que... Je pense que ce qui s'est passé avant nous explique ce que nous sommes aujourd'hui et explique la situation d'aujourd'hui, pourquoi la France est comme elle est aujourd'hui, pourquoi le monde tourne de cette façon.
Quand vous étiez étudiant, quelle méthode utilisez-vous pour retenir toutes ces dates ?
Alors, là-dessus, j'ai un petit peu évolué parce qu'au début, je ne travaillais pas assez. Et du coup, les dates, je ne les connaissais pas très bien. Et à un moment, je me suis rendu compte que si je voulais réussir mes examens, il fallait que je sache mieux tout ça. Et du coup, je me suis mis à étudier en faisant des fiches, en écrivant, en résumant mes cours sur des fiches, puis en apprenant mes fiches, en les relisant encore et encore. Ça finit par rentrer. Et je pense aussi, une autre chose importante pour bien apprendre quelque chose par cœur, c'est tout simplement de comprendre ce qu'on lit. Et ça, ce n'est pas forcément évident au départ. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand j'étais à la fac, à l'université, j'avais des matières qui ne m'intéressaient pas du tout et que je ne comprenais pas du tout. Par exemple, il y avait une matière qui s'appelait l'océanographie. Ça voulait dire qu'on expliquait comment les océans fonctionnaient. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Sauf que quand je me suis mis à étudier ça, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on essayait de m'apprendre, ça avait un sens. Et quand on se rend compte qu'en fait, en expliquant les courants marins, les choses comme ça, ça explique comment fonctionne le climat, par exemple, pourquoi il fait chaud à tel endroit, pourquoi il fait froid à tel autre, et ça m'a intéressé. Et je pense que quand on s'intéresse à quelque chose, et tout de suite, ça devient beaucoup plus facile d'apprendre.
Ah, merci.
Merci déjà pour votre méthode. Mais moi, du coup, moi, je suis en première ES, justement.
Et moi aussi, j'ai fait ES à l'époque.
Ouais. Du coup, moi, j'ai un problème avec mes cours, comme vous le dites. Voilà, le problème, c'est que je comprends bien mes cours. Bon, pas forcément en classe, mais quand je lis mon cahier, enfin, quand je fais mes fiches de révision, je comprends vraiment. J'arrive à écrire et tout. Mais devant ma feuille, j'ai comme un blocus. Je sais plus ce que j'ai révisé et tout. Et c'est pas forcément les dates. Par exemple, sur les régimes fascistes... de Hitler et tout ça. J'ai bien compris l'histoire, mais devant ma copie, je n'arrive plus à trouver les mots à organiser mon travail. Donc, vraiment, je pense que j'ai un blocus sur la méthodologie. Et du coup, je voulais vraiment savoir comment est-ce que vous avez fait.
Alors, je ne sais pas si ton blocage a lieu sur la méthode. Moi, ce qui me semble, quand je t'écoute, j'ai l'impression que le blocage est plus sur la confiance que tu as en toi. Parce que quand on sait, quand on comprend son cours, quand on l'a révisé et qu'a priori on le sait à peu près, Si on bloque devant sa feuille, à mon avis, c'est qu'on se fait pas assez confiance.
C'est vrai que c'est ce que mon prof m'a dit. Hein. mais comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai que devant ma feuille, je stresse. Et du coup, j'oublie ce que j'avais écrit, enfin, que je maîtrisais en faisant des fiches de révision depuis une semaine. Mais là, je sais pas comment faire.
Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est de croire en soi, se dire qu'on est capable de répondre. Qu'il n'y a pas de raison qu'on soit moins bon qu'un autre, ou qu'une autre, et que, tout simplement, on va essayer de répondre à la question le mieux qu'on peut, et en principe, ça devrait bien se passer si tu as révisé. Et la deuxième chose, c'est de se dire que, finalement, le prof en face, ce qu'il veut, c'est être sûr que tu as compris. Et pour être sûr que tu as compris, il a besoin que tu lui racontes quelque chose. Et pour moi, par exemple, tu parlais des régimes fascistes, tu parlais de politique, tout simplement, dis-toi, comment j'expliquerais ça, comment je répondrais à la question si je devais le raconter à mon petit frère ou à ma petite sœur. Et à mon avis, ça peut être un point de départ. On raconte l'histoire sur ton brouillon, et là, tu auras tous les éléments en te disant, il faut bien que mon petit frère ou ma petite sœur ait compris tout ça. Et après, tu le retranscris sur ta feuille, et à mon avis, ça devrait t'aider.
D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer?
Oui, moi. Quelles sont vos périodes préférées dans votre livre ou dans l'histoire française?
Alors moi, j'ai une période qui m'intéresse beaucoup, c'est l'époque de Louis XIV et de Versailles. Je trouve qu'à ce moment-là, il y avait une certaine grandeur, les gens parlaient très très bien, les gens écrivaient très très bien. Et c'est aussi un moment où, ça c'est Voltaire qui le dit, Voltaire il a vécu un petit peu plus tard, mais quand il a réfléchi en se disant quelles sont les plus grandes périodes de l'histoire de l'humanité, à quel moment l'humanité a été la plus brillante, la plus étincelante, il a défini quelques périodes, 4 ou 5, et parmi ces périodes, il s'est dit, il n'y a pas si longtemps que ça, le règne de Louis XIV, lui il appelait ça le siècle de Louis XIV, là il s'est passé quelque chose, il y avait des tas de génies qui étaient réunis au même moment, quasiment au même endroit, c'est-à-dire dans Paris et sa région, et ils ont tous fait avancer l'humanité. Ça, je trouve ça fascinant.
Et si c'est 50 dates clés, est-ce que vous pourriez nous parler d'autres dates, je ne sais pas, qui vous a marqué quand vous avez trouvé votre...
En dehors des 50 dates ?
Ouais.
En fait, ce qui était très difficile, justement, dans ce livre, c'est de se dire... on me demande d'en choisir 50. Et évidemment, en 50 dates, on ne fait pas le tour de l'histoire de France, parce qu'il se passe des choses tout le temps. On pourrait dire, en 2017, élection d'Emmanuel Macron, en 2015, des attentats, il se passe tout le temps des choses. Et donc le plus difficile, c'est de se dire, bon, quelles sont les plus marquantes? Donc d'en choisir 50. Et bien sûr, moi, j'ai eu quelques frustrations. Ça veut dire qu'il y a vraiment des dates, j'aurais voulu en parler, et j'ai pas pu. Ou des personnages que moi, j'aime beaucoup, mais qui ne sont pas assez importants pour figurer dans un livre comme ça qui essaye de faire une synthèse, c'est-à-dire de faire quelque chose de général. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question.
Quel est le personnage que vous préférez dans l'histoire de France ou dans ce livre-là?
Alors, moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Madame de Maintenon, qui était la deuxième femme de Louis XIV. Ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est que c'était une... personne qui est partie de rien. Elle était pauvre, elle est née dans une prison, elle n'avait pas grand-chose pour s'en sortir, et pourtant, elle est devenue la femme du plus grand roi du monde. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire, c'est qu'elle a réussi par son intelligence. À cette époque-là, c'était pas facile, et surtout quand on était une femme, il y avait des tas de préjugés, c'était très difficile de s'en sortir, et elle a réussi vraiment en étant intelligente, en étant prudente, en faisant des sacrifices aussi. Elle a réussi petit à petit à gravir les échelons et à atteindre cette position que tout le monde enviait. Et voilà, ça je trouve ça assez fascinant.
Moi, on me parle beaucoup du baptême de Clovis, mais j'ai jamais compris cette histoire. Vous pouvez me le raconter juste en quelques secondes?
Oui.
S'il vous plaît.
Alors, le baptême de Clovis, on ne sait pas exactement la date. Il y a un petit peu des doutes, mais en gros, ça se passe à la fin du 5e siècle. Alors, la fin du 5e siècle, ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, il y avait l'Empire romain avant, qui gouvernait toute une partie de l'Europe, etc. L'Empire romain s'effondre. Donc, imaginez un empire immense qui s'effondre. Imaginez aujourd'hui les États-Unis qui disparaissent en quelques dizaines d'années. Donc forcément, derrière, ça fait une situation très compliquée. Il y a des tas de barbares, des peuples qui arrivent et qui essayent de le remplacer, qui essayent de construire des petits états, des petits pays. Et parmi ces peuples, il y avait ceux qu'on appelait les Francs. Et les Francs avaient à leur tête un roi qui s'appelait Clovis. Et Clovis, il était, sa religion, il était païen. Ça veut dire qu'il adorait des tas de dieux différents, mais il n'était pas chrétien. Or, l'Europe à cette époque, beaucoup de gens étaient chrétiens. Mais ils étaient ce qu'on appelle ariens. Alors, c'est un peu compliqué, mais juste pour vous dire, en gros, ils n'étaient pas catholiques. Ils croyaient en Jésus, mais ils n'étaient pas catholiques. Et Clovis, il a eu une idée de génie. Il s'est dit, peut-être qu'il faudrait que je devienne catholique pour avoir une aide politique de toute l'Église catholique. Alors là, je sens que je suis un petit peu compliqué, donc je vais simplifier la chose. En gros, il y avait une bataille. Clovis, il risquait son... Il était encore païen à cette époque-là. Et il y avait une grande bataille, et il a eu peur de perdre cette bataille, et il s'est dit... Au milieu du champ de bataille, ça c'est la légende un petit peu, il s'est dit... il a prié Dieu, et il a dit « Si Dieu, tu m'accordes cette victoire, je deviendrai catholique. » Il gagne la bataille, il devient catholique, et du coup, ça fait que son baptême, si vous voulez, c'est un petit peu le baptême de la France. Donc c'est un peu une alliance entre la France et le catholicisme qui va durer pas mal de siècles.
D'accord, merci.
Est-ce que vous pourriez nous faire un briefing des périodes de la Première et la Deuxième Guerre mondiale ?
Alors je vais essayer. Je vais essayer de faire ça vite. Donc vraiment, les grandes lignes.
Ouais.
Donc d'abord la Première Guerre mondiale, on est au début du XXe siècle. Et au début du XXe siècle, l'Europe est divisée en deux groupes. Il y a deux alliances qui se font face. D'un côté, il y a la France, le Royaume-Uni, et il m'en manque un, et la Russie, merci, qui font ce qu'on appelle la triple entente. Et en face, il y a ce qu'on appelle la triple alliance avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Ces deux groupes sont rivaux, et il y a beaucoup de tensions entre eux, et on se dit que il suffirait de pas grand-chose pour que tout cela éclate. Et évidemment, l'étincelle qu'on attendait arrive, c'est l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo, donc en 1914, au début de l'été. Il y a l'héritier de l'Autriche-Hongrie qui se fait assassiner. Il se fait assassiner en Serbie. Du coup, la Russie n'est pas contente du tout, parce que l'Autriche dit « on veut à la Serbie d'avoir laissé ce meurtre arriver ». Du coup, tout éclate. Les deux alliances dont je parlais tout à l'heure se font face, la guerre éclate et ça va durer 4 ans. 4 ans d'une guerre terrible. Faut imaginer que tous les jeunes hommes, sauf quelques exceptions, mais vraiment ça veut dire des millions de jeunes hommes qui ont entre, je sais pas exactement les âges, mais je dirais entre 18 et 45 ans, tous ils vont aller combattre au front. Et tout ce monde-là, malheureusement, parmi eux, il y en a beaucoup qui ne vont jamais revenir. Ça va faire des millions de morts, et au bout de 4 ans, c'est la triple entente qui gagne, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni et la Russie, aidés par les États-Unis, par quelques pays. Et donc, ils gagnent, mais on peut se dire quand même que pendant 4 ans, ça a été un immense gâchis. Parce que tellement de morts. Je ne sais pas si vous voyagez de temps en temps dans les villages de France. Mmh. Mais ce qui est intéressant quand on prend sa voiture et qu'on voyage et qu'on traverse de village en village, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans tous les villages, il y a ce qu'on appelle un monument aux morts. C'est un petit monument avec des noms dessus. Et tous ces noms, ce sont des gens qui sont partis à la guerre et qui ne sont jamais revenus. Donc il faut se dire que dans chaque village, des gens qui allaient à l'école ensemble... Eh bien, dans chaque classe, il y a des gens qui sont morts. Plus tard, quand ils étaient adultes et qu'ils ont combattu. Donc, il faut se rendre compte du traumatisme incroyable. Et ça s'est passé il y a à peine 100 ans en Europe. Il n'y a vraiment pas si longtemps que ça. La Deuxième Guerre mondiale, maintenant. La Deuxième Guerre mondiale, comme on l'a résumé. Donc, après la Première Guerre mondiale, on a essayé de résoudre le conflit. Et ça a été difficile parce que... Les pays qui ont gagné n'étaient pas tous d'accord entre eux, et certains pays voulaient leur revanche. Et donc ça veut dire qu'on a décidé de tas de choses qui ont eu des conséquences graves. Par exemple, on a décidé de punir l'Allemagne. On a dit, l'Allemagne, on va lui rabaisser son caquet pour qu'elle nous embête plus jamais. On a l'Autriche-Hongrie, qui est un immense empire, on a décidé de le couper, de le découper en plein de petits morceaux. Ce qui fait qu'il n'y avait plus d'Autriche-Hongrie. Il y avait l'Autriche qui était un petit pays, il y avait la Hongrie qui était un petit pays, etc. Et tout ça, ça a un petit peu déstabilisé l'Europe. Et en Allemagne, il y a un homme donc, que tout le monde connaît, qui s'appelle Hitler, qui avait des idées horribles. Il détestait les juifs, il détestait les tziganes, il détestait les homosexuels, il détestait... Enfin, globalement, il détestait beaucoup de monde. Et il avait des idées vraiment racistes. Enfin, c'est pas quelqu'un de très recommandable. Et lui, il se disait, l'Allemagne a été humiliée pendant la Première Guerre mondiale. Et ben moi, je vais vous montrer que l'Allemagne est la plus forte. Et du coup, il a lancé toute une politique qui visait à la domination de l'Allemagne sur l'Europe. Et il a fait, dans les années 30, des tas de provocations. Il a dit, je vais annexer tel pays parce qu'il y a des Allemands qui y vivent. Il s'est mis à... c'est pas très drôle, hein, mais...
non, mais arrêtez, moi, je suis au taquet, là.
Il a fait des tas de provocations comme ça. Et la guerre a fini par éclater parce qu'il fallait que ça s'arrête. Et du coup, ça a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Et la France, donc ça commence en 1939, la France, elle, va être vite battue. Et c'est là qu'en France va commencer le régime de Vichy avec le maréchal Pétain. Et, mais ça va continuer. Et bref, tout ça va faire qu'il y a un énorme conflit. Et au début, l'Allemagne et ses alliés gagnent. Donc, ils conquièrent la France, ils arrivent à des tas de victoires, et la situation est un peu désespérée en France. Et ça veut dire qu'en France, par exemple, la politique contre les Juifs, par exemple, est appliquée aussi en France. C'est absolument terrible. Mais la guerre va se retourner parce que les États-Unis, parce que l'URSS, donc la Russie, vont entrer en guerre et vont battre l'Allemagne avec le Royaume-Uni, avec les résistants français, parce qu'en France, il va y avoir une résistance. Et donc l'Allemagne nazie va finir par être battue.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut se manifester?
Moi, on m'a expliqué en classe le mur de Berlin, mais j'ai pas trop compris, parce qu'on nous a dit que ça séparait en fait l'Allemagne et d'autres pays. Il y avait un rideau de fer, mais le rideau de... Mais comment en fait on a réussi à construire ce mur-là?
Alors, ce qui s'est passé... C'est donc après la Seconde Guerre mondiale, je vous ai dit que les États-Unis et l'URSS étaient intervenus. Et ce sont un peu les deux grands gagnants. Parce que l'Europe, elle a eu deux guerres mondiales, donc elle s'est beaucoup affaiblie. Et ça veut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a deux grandes puissances dans le monde qui dominent vraiment tout le monde. D'un côté, les États-Unis, qui sont capitalistes, qui croient en la démocratie. Et de l'autre côté, l'URSS, qui est communiste et qui... comment définir, mais qui est quand même une dictature, malgré tout. Et ces deux pays sont à la tête de deux blocs. Ils vont tous les deux avoir des alliés. Par exemple, la France est alliée plutôt des États-Unis. On reste capitaliste et on reste surtout une démocratie. L'URSS, elle, va capter toute l'Europe de l'Est. Et forcément, il y a une frontière entre ces deux blocs qui se forme. Et à cette frontière, il va y avoir des tas de problèmes, parce qu'il y a des gens qui veulent passer d'un côté à l'autre. Et pour les empêcher de passer, on va construire un mur. Et notamment à Berlin, parce que Berlin, c'est donc la capitale de l'Allemagne, elle est divisée en deux. D'un côté, il y a un côté capitaliste, et de l'autre, il y a un côté communiste. Et pour pas que les gens passent de l'un à l'autre, on construit un mur dans la ville. C'est comme si, imaginez Paris, on décidait de construire un mur entre le 14e et le 15e arrondissement. Hop, on ne passe plus. Et la ville est complètement divisée. Et voilà, c'est ce qui s'est passé à Berlin. Et donc le mur va tenir jusqu'en 1989, quand le bloc communiste commencera à s'affaiblir. Et là, on va détruire le mur parce qu'il sera plus utile. L'Allemagne va se réunifier, redevenir un seul pays.
D'accord. Mais en fait, pourquoi il y a une partie qui appartient, qui est gardée par des gardes, l'autre côté? qui est propre, où c'est classe, c'est assez sobre, ça. Et l'autre côté, où y a, on dirait que c'est salubre et c'est moche, et on dirait franchement une ville qui est dévastée.
Parce que c'était pas... du coup, les deux côtés de la ville n'étaient pas gérés par les mêmes personnes. Et les personnes n'avaient pas les mêmes priorités non plus. Et du coup, comme les villes finalement ne se parlaient pas, et ben finalement, ils allaient dans des directions un peu différentes. La politique n'était pas faite par les mêmes personnes. Et par exemple, d'un côté, on voulait construire, je sais pas, des tas de logements pour les personnes très défavorisées. Et donc, on faisait des grands bâtiments, etc. Et de l'autre, on essayait de continuer une vie un peu à l'occidentale. Voilà, il y a des différences comme ça. C'est tout simplement parce que les deux villes n'étaient pas gérées par les mêmes personnes.
Oui, pour votre livre, vous considérez que vous faites davantage un travail de journaliste ou d'historien ?
Alors, c'est une bonne question. Disons que c'est un peu à cheval entre les deux, parce que je pense que c'est un travail d'historien malgré tout, mais qui essaye vraiment d'être accessible. Et je pense que les historiens, globalement, devraient être plus accessibles qu'ils ne le sont souvent. Et je pense notamment aux grands universitaires qui savent des tas de choses sur des tas de sujets, mais qui ont parfois un peu de mal à tout simplement expliquer à vous, à moi, à des choses simples. Et l'idée de ce livre, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais avec Franck Ferrand, en tout cas, on a essayé d'expliquer simplement, de vulgariser, mais tout en gardant une qualité, on espère, d'écriture, et puis dans le fond aussi, de mettre en avant beaucoup de questions que pose chaque date. Voilà, donc ça ressemble à un travail de journaliste, donc c'est un peu à cheval entre les deux.
Comment vous êtes rentré à Europe 1 pour faire de la radio ? Par vos contacts ou comment ?
Alors,
on va parler de carrière.
Ce que j'ai fait, c'est que j'avais un autre travail, mais j'avais envie de changer. Et du coup, je me suis dit, moi je connais pas grand monde, j'ai pas de réseau, etc. Enfin voilà. Et je me suis dit qu'il fallait que je rencontre quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler. Et il y avait une émission que j'écoutais souvent quand je travaillais pas à Europe 1, qui s'appelle donc Au cœur de l'histoire, l'émission pour laquelle je travaille. Très souvent, je l'écoutais en rentrant chez moi le soir, etc., en podcast. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais travailler pour cette émission, ça m'intéresserait beaucoup. Et du coup, j'ai essayé de trouver une solution pour rencontrer l'animateur de l'émission. Donc j'ai essayé de trouver des gens qui peut-être le connaissaient, etc., pour trouver un moyen. Et en fait, c'était assez facile de le rencontrer parce que dans cette émission, ils reçoivent souvent du public. Et donc à la fin d'une émission, je suis allé le voir. Je lui ai dit que j'aimerais beaucoup parler avec lui et surtout travailler pour lui. Je lui ai donné un curriculum vitae. J'ai essayé de lui expliquer pourquoi j'avais envie de travailler avec lui. Et après, on a échangé quelques mails, on a essayé de parler un petit peu. Et après, il m'a dit, écoutez, je vais vous donner une chance, essayez d'écrire un récit d'une émission, essayez d'écrire une émission. Et si c'est bien, on verra ce qu'on peut faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait, ça a bien fonctionné. Et ensuite, il m'a testé plusieurs fois sur plusieurs textes. Et ça a fini par fonctionner, j'étais embauché.
Et pour votre livre, vous l'avez écrit, enfin vous avez pris du temps pour écrire ou
Oui, bien sûr. Ça nécessite des recherches. Il faut prendre le temps de bien écrire pour. Comme ce sont des textes très courts, c'est pas facile en fait d'expliquer des sujets un peu compliqués de manière très courte. Par exemple, je vais prendre un exemple. 1789. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est 1789 ?
Non,
c'est le début de la Révolution française, donc c'est un événement très important
avec
dans l'histoire de France.
Avec la Bastille, tout ça.
Exactement, avec la Bastille. Et du coup, c'est un événement, beaucoup de gens connaissent la date. Ils se disent, oui, 1789, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Et bien, comme c'est une date où il se passe énormément de choses, ce n'était pas facile de résumer dans un petit texte pour que le lecteur ait les principales informations pour comprendre l'événement. Voilà, donc ça prend du temps, par exemple. Et donc, comme je travaille à plein temps, il a fallu, le week-end ou pendant mes vacances, que j'écrive ce livre.
Ah ok, merci. Et pour les photos ?
Alors pour les photos, c'est pas moi qui les ai prises, c'est l'éditeur qui met en page, et donc il choisit des images, Et après, quand on reçoit la première version, si tu veux, c'est pas celle qui est publiée, mais une version qui est un peu une version d'essai, un test, on regarde et on dit à l'éditeur, ah ben là, est-ce qu'on pourrait changer d'illustration, est-ce que voilà. Et puis c'est comme ça que ça se fait et au final on arrive à ça.
Ah d'accord. Et pour les pages, c'est de combien à combien?
Comment ça? Combien il y a de pages, oui, c'est ça?
Tu les regarderas.
Je ne sais pas moi-même.
Ouais.
159, merci beaucoup.
Donc 159.
Ah bah donc. Ah 159, ok.
Ça te paraît trop court, trop long.
Non,
bah,
je trouve que c'est bien.
D'accord.
Ah, bon, vous êtes historien. J'ai une question, je ne sais pas si. Vous avez grandi, c'est en grandissant que vous avez eu l'envie, la passion pour ce métier, pour l'histoire, ou bien c'est depuis, je ne sais pas, vous avez inspiré, et si vous avez inspiré, vous avez été inspiré, et si c'est le cas de qui, ou je ne sais pas, c'est depuis l'enfance, quand avez-vous vraiment commencé à aimer l'histoire?
Alors, j'ai aimé l'histoire dès l'enfance. C'est-à-dire que... J'ai des parents qui aiment beaucoup l'histoire eux-mêmes et qui, du coup, souvent me racontaient l'histoire, mais ils ne me racontaient pas l'histoire qui fait peur, celle qu'on apprend à l'école où on se dit « Oh là là, il faut que j'apprenne plein de dates, c'est horrible. » C'était, ils me racontaient en fait des histoires. Et c'est un bon moyen, je trouve, de commencer, quand on commence à s'intéresser à l'histoire, parce que, en fait, l'histoire, c'est des tas d'histoires. C'est des personnes comme vous et moi à qui il arrive des tas d'événements. Et c'est super intéressant de suivre leur vie, en fait. Et c'est ce qui est passionnant aussi avec l'histoire de France, c'est qu'on on a des rois, on a des reines, on a des présidents, etc. Et bien, tous ces gens, il leur arrive des tas de choses, et c'est passionnant, ça. Et une fois qu'on s'est intéressé à toutes ces histoires incroyables, mais qui sont comme les romans ou comme des films, en fait, très souvent, l'histoire est encore mieux faite que les films. Moi, très très souvent, quand j'écris une émission, je me rends compte que c'est incroyable ce qui leur est arrivé et il y a des rebondissements sans arrêt, enfin, c'est vraiment c'est Hollywood quasiment et ça c'est passionnant de se rendre compte de ça. Et après, une fois qu'on s'est intéressé aux personnes et à leur histoire, on se rend compte que ben, tout ça, ça veut dire quelque chose, et ça veut dire qu'à ce moment-là il y avait le peuple aussi, il lui arrivait des tas de choses, etc. Mais je trouve que c'est un bon point de départ de commencer par l'histoire de ces souverains, de ces présidents.
Je sais pas, vous avez aimé l'histoire, oui, de l'enfance. Si vous avez aimé l'histoire de l'enfance, ça veut dire déjà étant petit ou en grandissant, vous vous disiez déjà dans la tête, ah, je serais historien ou quoi. Parce que je prends l'exemple sur moi, j'aime bien les mathématiques, mais dans ma tête, c'est pas non, je serais professeur de maths ou non, dans ma tête, j'ai un autre métier. Je sais pas, en grandissant, vous avez aimé l'histoire en ayant déjà dans la tête l'idée d'être historien ou quoi?
Alors ça, je ne savais pas trop. Mais je pense qu'on peut avoir aussi des passions qui ne sont pas notre métier. Ouais. Et je pense que c'est bien ça aussi, d'avoir des tas de passions qui ne deviennent pas notre métier. Parce que, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un exemple idiot. J'aime bien cuisiner.
Ouais.
Et pourtant, je ne suis pas cuisinier. Et je serais incapable d'être cuisinier d'ailleurs. ce que je fais n'est pas toujours très réussi. Mais voilà, on peut avoir des tas de passions comme ça. J'aime aussi beaucoup le sport. Je fais beaucoup de sport, mais je serais incapable d'être un sportif de haut niveau. Je n'aurai jamais de médaille olympique, je le sais. Mais ça ne m'empêche pas de faire du sport. Et c'est important, ça aussi, je pense, dans la vie, de se dire qu'on peut aimer quelque chose, savoir qu'on ne sera jamais le meilleur dans ce domaine, et pourtant, ça nous apporte quelque chose. Et bien, je pense qu'avec les matières de l'école, il y a ça aussi. Par exemple, donc moi j'adorais l'histoire, et c'est vrai, je me suis dit à un moment que j'aimerais bien être professeur d'histoire, géographie par exemple. Ça m'a intéressé à un moment, finalement c'est pas ce que je suis devenu, mais ça aurait pu. Et il n'empêche, par exemple, j'étais en économique, en ES, comme toi, et j'aimais beaucoup l'économie, ça m'intéressait aussi. Mais pourtant, jamais je me suis dit que ce serait mon métier.
Ah d'accord, merci.
Avec plaisir.
Moi, en fait, on m'a raconté qu'après... que Louis XIV, en fait, en s'enfuyant après la destruction de la Bastille, voulait s'enfuir avec sa femme Antoinette. Mais en fait, il s'est arrêté au bout du chemin dans un restaurant pour manger parce qu'il adorait manger. Et il a donné une pièce au monsieur et il a envoyé tout le monde pour dire « Ah, il y a Louis XIV ici !» Mais en fait, pourquoi au bout du chemin, il voulait s'enfuir et il a mangé. Il a voulu manger comme ça.
Alors, c'est très intéressant ce que tu racontes. C'est très bien que tu saches tout ça parce que c'est pas simple. Ça, c'est ce qu'on appelle la fuite à Varennes, ça. Donc, c'est Louis XVI, pas Louis XIV, mais Louis XVI, voilà, qui part, mais ce n'est pas grave. Effectivement, il y avait la Révolution à Paris, donc il se dit, je vais essayer de fuir parce que ça commence à tourner mal pour moi. Donc, il fuit, mais il était roi. Donc, lui, toute sa vie, il avait l'habitude d'un certain confort. Pour lui, fuir comme ça, c'était pas quelque chose de très naturel. Il était un petit peu gros, comme tu fais le signe avec ta main. C'est vrai, il était un peu gros. Enfin voilà, et du coup, quand même, quand on fuit comme ça, en carrosse, il faut penser qu'un carrosse, c'est quand même pas très confortable. Il faut faire des pauses. Et lui, il a fait peut-être un peu trop de pauses. Il a perdu un peu du temps. Est-ce qu'il a pris le bon chemin aussi pour rejoindre l'étranger? C'est pas sûr qu'il ait pris le bon chemin. Il faut bien manger, il faut bien s'arrêter pour dîner.
Tu réfléchis, tu manges un bout et tu pars parce que t'as envie de t'enfuir parce que franchement.
Quand et là, faut se dire aussi qu'il voyageait dans un carrosse avec toute sa famille, avec des enfants. Les enfants, on ne peut pas leur faire subir non plus.
Et Saint-François-Antoine,
il faut s'arrêter. Marie-Antoinette et ses valises. Enfin voilà, tout ça n'était pas simple. Il fallait quand même faire des pauses. Ça, on ne peut pas trop lui reprocher. Après, il en a peut-être fait trop et trop longtemps. Ça, mais de toute façon, c'est lui qui va le payer parce qu'au final, il va perdre sa tête, ce roi.
Mais avant qu'on lui coupe la tête et avec la guillotine, on l'a déguisé en clown pour faire rire les gens, non?
Non.
Parce qu'on m'a dit ça et apparemment il y a un fantôme de lui qui traîne à Paris. Je sais pas. Merci beaucoup pour cette interview et merci à tous ceux qui sont assistés à ça et merci d'avoir fait votre venue. Donc merci d'avoir répondu à nos questions. Donc nous on est près de la porte devant pour ceux qui veulent venir et. Bon, je vous dis à la prochaine et au revoir.